Mode d'emploi.
Bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel, nous sommes ensemble pour une heure d'émission. L'émission c'est Mode d'emploi, l'émission des chômeurs des précaires. Émission animée par une équipe composée de militants altermondialistes, membres de l'association ATTAC et du journal Le Piaf.
Et nous recevons ce soir Maxime Combes, économiste à ATTAC, qui va nous parler de combattre les énergies fossiles, enfin plus exactement le bilan de COP21 et des actions de la quinzaine Break Free. Bonsoir Maxime. Maxime ?
Oui, bonsoir.
Ah, je t'entends. Et tout le monde l'entend ? Tout va bien ? Donc bonsoir Maxime, tu nous parles de loin, je crois que tu es sur Marseille aujourd'hui.
En région lyonnaise, mais c'est pareil.
Je t'entends pas vraiment, moi. C'est bon, je t'entends très bien. Alors, donc tu nous appelles de Marseille, merci, et on t'invite en tant qu'économiste et puis membre d'ATTAC, donc l'association de défense de beaucoup de choses, et en l'occurrence ici, de tous les problèmes qui entourent la politique énergétique et la politique, on va dire, basée sur l'environnement. C'est un des mille et un sujets d'ATTAC, bien sûr. Alors tu en es un des mieux placés pour en parler, et entre autres pour nous faire le bilan de la COP21. Et juste pour dire qu'on est dans l'actualité, c'est que cette quinzaine du 3 au 15 mai, à l'appel du mouvement Break Free, il y avait une série d'actions dont tu nous parleras tout à l'heure. Alors, on va partir à partir d'un document qui s'appelle COP21, ratifier c'est bien, changer de politique c'est mieux, qui sont 14 propositions pour amorcer la révolution climatique. Alors, on peut se dire qu'après COP21, tout va bien, et là, il y a 14 propositions qui ne sont certainement pas dans le document de COP21, j'imagine.
Non, effectivement, ce document vient quelques mois après la COP21, donc que nous avons rédigé au sein d'ATTAC pour essayer de montrer le décalage qui a pu exister lors de la COP21 entre des beaux discours. On a eu de belles déclarations, avec parfois des engagements qui sont des engagements que la société civile, que le monde des climatologues, des scientifiques peuvent partager. Par exemple, l'article 2 de l'accord de Paris qui a été finalisé lors de la COP21. Dit qu'il faut contenir le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés, voire en deçà d'un degré et demi. Ça, c'est un constat et un objectif qui est partagé par le plus grand nombre. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les outils, les instruments de politique publique, ni au niveau international, ni au niveau régional, au niveau européen ou au niveau national, et même au niveau local, qui sont en adéquation avec ces objectifs-là. Et donc, du coup, on a voulu rassembler dans un document unique, un certain nombre de propositions que le gouvernement français, au-delà de son engagement en tant que hôte et facilitateur de la COP21, pourrait prendre aujourd'hui en France. Et ces propositions touchent aussi bien l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes que la question de l'exploitation de nouveaux champs d'hydrocarbures, notamment non conventionnels, mais aussi des choses qui sont en général pas suffisamment connectées à la question climatique et qui ont trait à la négociation de nouveaux accords internationaux, comme peuvent l'être l'accord entre l'Union européenne et le Canada, celui avec les États-Unis, et tout ce genre de choses qui ne sont pas en général touchées du doigt par la question des négociations sur le réchauffement climatique et qui concernent finalement cette formidable machine à réchauffer la planète qu'est l'économie mondiale, qui sont les règles et normes qui organisent l'économie et la possibilité pour les multinationales d'organiser leurs activités.
Voilà, donc c'est exactement le plan des 14 points que tu viens de nous brosser. Alors si on rentre dans les détails, et je reprends les chiffres que tu as donnés dans différents documents, par exemple, si on prend au sérieux ce fameux objectif des 2%, tu citais qu'il fallait évidemment travailler sur les fossiles, les énergies fossiles, et commencer à réfléchir sur ne plus utiliser toutes ces réserves. Tu es d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Sortons de l'âge des fossiles », manifeste pour la transition aux éditions Anthropocène, au Seuil.
Oui, ces résultats-là sont pas les nôtres. C'est aujourd'hui ce que les scientifiques nous disent à travers les analyses qu'ils ont pu faire et les calculs qu'ils ont pu faire. Il faut rentrer un petit peu dans les calculs juste pour comprendre que pour rester en deçà des 2 degrés de réchauffement climatique, il ne faut pas émettre plus qu'une certaine quantité de gaz à effet de serre, il ne faut pas relâcher plus qu'une certaine quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et que cette certaine quantité, finalement, c'est un petit peu le budget carbone dont l'humanité dispose, et après se posent des questions de répartition, qui sont des questions complexes, savoir qui aurait le droit d'utiliser ce budget carbone et qui devrait l'utiliser moins que les autres. Mais en tout cas, on a un budget carbone alloué collectivement pour l'ensemble de la planète et de l'humanité, et quand on regarde ce que représente ce budget carbone au regard de ce qu'émettrait la combustion de l'ensemble des réserves d'énergie fossile aujourd'hui documentées et existantes, c'est-à-dire l'ensemble des réserves de gaz, de pétrole et de charbon dont on sait pouvoir les exploiter dans les conditions actuelles, et bien là on a un rapport de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 5, ou dit autrement, il y a 3 fois plus, 4 fois plus, voire 5 fois plus de réserves d'énergie fossile. Il y a des discussions sur le montant exact, mais en tout cas la tendance est là. Et donc du coup, s'il y en a 5 fois plus que ce que nous avons le droit d'émettre d'ici 2050 ou d'ici 2100, ben, ça veut dire qu'il faut en laisser les 3 quarts, les 4 cinquièmes sous terre pour avoir une chance raisonnable de rester en deçà de ces 2 degrés de réchauffement climatique. Et donc du coup, c'est une façon d'appréhender la question énergétique d'une autre façon que celle qui est généralement posée dans le débat public. Souvent dans le débat public, et notamment ces dernières années, ça est en train un petit peu de changer, mais ces dernières années, la question qui était toujours posée, c'est « mais finalement, on va avoir une raréfaction des ressources énergétiques fossiles, il faut en trouver d'autres ». Et quand on prend la contrainte climatique, quand on intègre l'exigence climatique à ce raisonnement, on se rend compte qu'on n'a plus une situation finalement de pénurie, mais une situation de trop-plein. Il va falloir que nous apprenions à vivre en laissant sous terre, sans toucher, une majorité des réserves d'énergie fossile que nous avons aujourd'hui, dont nous avons aujourd'hui connaissance. Et ça, c'est un changement de paradigme, de façon de voir les choses, totalement important au regard de la situation dans laquelle on est. Il faut que nous apprenions effectivement à transformer nos modes de vie, nos modes d'existence, le système économique, le système financier, le système commercial, de façon à ce que nous puissions effectivement laisser ces ressources énergétiques fossiles dans le sol. Et c'est une décision qui est extrêmement importante à la fois pour préserver les conditions de possibilité d'existence sur la planète, mais également assez démentielle au regard de l'histoire même des civilisations humaines, puisque jamais aucune civilisation n'a décidé finalement de préserver, de ne plus toucher les réserves naturelles sur lesquelles elle a construit son développement, avec tous les mots que vous voulez autour du mot développement, sur lesquelles elle a construit ses systèmes économiques et sociaux. Et c'est pourtant la décision qu'il faut que nous arrivions à prendre, en tout cas que nous mettions en place des dispositifs politiques, normatifs, réglementaires, sociaux, politiques, qui nous permettent d'arriver à ce résultat.
Alors on peut aborder justement les fameux 14 points qui enchaînent ton discours. Le point 7, par exemple, c'est promouvoir des politiques de sobriété et d'efficacité énergétique. On cite par exemple, pourquoi pas, essayer de mettre en place au niveau européen des objectifs contraignants sur l'efficacité énergétique. On parle d'arriver à améliorer de 27% l'énergie, le rendement, l'efficacité.
C'est effectivement un point un peu général, parce qu'effectivement, au niveau de l'Union européenne, il y avait pour 2020 des objectifs à la fois de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20%, des objectifs de développement des énergies renouvelables de 20% également, et un objectif qu'on appelle d'efficacité énergétique, c'est-à-dire, donc du coup, pour le dire vite, que chaque point de PIB nécessite 20% d'énergie en moins que ce qu'il en avait nécessité dans les périodes antérieures. Donc augmenter l'efficacité énergétique, c'est-à-dire augmenter la quantité de choses que vous pouvez faire avec une quantité équivalente d'énergie, ou maintenir un niveau d'activité avec une quantité d'énergie qui diminue. Et il se trouve que dans les objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne, par les États membres, par la Commission européenne pour la période qui va au-delà de 2020, qui est la période donc qui aujourd'hui intéresse dans le cadre des négociations sur le réchauffement climatique pour 2030 et pour après, finalement l'Union européenne s'est simplement limitée à fixer un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre contraignant, dont on ne sait pas trop encore comment il va se répartir entre les États membres, mais les objectifs contraignants de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique ont été supprimés. Il n'y a plus que des valeurs indicatives donc, qui finalement vont laisser aux États membres la possibilité de faire à peu près ce qu'ils veulent. Et ça, c'est problématique parce que on peut très bien imaginer que l'Union européenne atteigne ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en continuant à délocaliser massivement les productions industrielles les plus émettrices, mais finalement sans changer fondamentalement de mode de vie, nos systèmes économiques et sociaux en Europe. Et c'est là qu'il y a un problème, parce qu'on sait très bien que pour faire face au dérèglement climatique et être à la hauteur des enjeux, mais il ne faut pas simplement tenter de faire transiter une filière énergétique qui émet beaucoup de gaz à effet de serre vers une filière énergétique qui en émettrait moins. Il faut qu'on restreigne la consommation d'énergie dans nos pays et qu'on fasse preuve de sobriété énergétique, c'est-à-dire de politiques qui font la chasse au gaspillage et réduisent fortement les émissions qui ne sont pas nécessaires pour des consommations ostentatoires ou des consommations qui ne sont pas nécessaires au fait de vivre bien. Et donc ce sont ces politiques de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique dont on a aujourd'hui considérablement besoin pour faire face aux défis climatiques et qui sont en général assez peu mises en avant parce qu'on préfère discuter de savoir comment on va remplacer le pétrole par les énergies renouvelables ou le gaz et le charbon par les énergies renouvelables, mais tout en oubliant que pour faire cela, il faut réduire la quantité globale d'énergie qu'on consomme, et c'est là que les énergies renouvelables pourront devenir intéressantes dans le mix énergétique futur.
Alors, un des moyens mis en avant, parce que ton discours, on l'a presque entendu, là, celui-là, dans la bouche de certains politiques, enfin, j'arrivais moins à croire que quand je t'écoute toi, mais il y a aussi le point 8 des propositions, c'est mettre fin à l'inefficace et dangereux marché carbone européen. Pourtant, beaucoup de politiques nous présentent ça comme, et puis depuis un moment, comme la panacée, le moyen de réguler l'économie par l'économie.
Bah, c'est notamment le discours que tient Jean Tirole, prix Nobel d'économie français, dont on a chanté les louanges et qui est aujourd'hui et cette semaine de nouveau mis à l'honneur par la publication de ses bouquins. C'est un fervent défenseur de ces solutions de marché visant à, finalement à internaliser ce qu'ils appellent des externalités négatives, c'est-à-dire donc là des pollutions, des émissions de gaz à effet de serre. Et la seule façon pour des économistes finalement classiques qui ont une réflexion selon laquelle ce qui compte c'est de faire en sorte que les acteurs économiques puissent arbitrer leurs décisions d'investissement, leurs choix en fonction des seules réalités de marché, mais leur objectif c'est d'intégrer dans ce vaste marché mondial généralisé des choses qui n'en font pas partie, comme le sont aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre. Et donc du coup, on octroie, et c'est le problème du marché carbone européen, c'est qu'il a été octroyé beaucoup trop de droits à polluer auprès des entreprises européennes, et que ces droits à polluer ont été octroyés gratuitement, ce qui a de fait contribué à subventionner toute une série d'entreprises extrêmement polluantes, comme ArcelorMittal, Lafarge, Total et bien d'autres, et que on ne les a pas du tout incités à réduire leurs émissions, et le fait d'avoir délivré beaucoup trop de permis d'émission fait que nous avons aujourd'hui beaucoup trop de permis en circulation, et donc sur ce marché carbone, où les prix est censé donc refléter l'offre et la demande, comme il y a beaucoup trop de permis en circulation, ben, le prix de la tonne carbone a été réduit à quelques euros, et donc n'est pas du tout incitatif. Donc on a une situation où ce marché carbone européen, il est déficient, il est inefficace. En plus, il a été l'objet de fraudes à la TVA dont on a parlé récemment dans les médias. Mais même sans ces fraudes à la TVA, ce dispositif-là est complètement inefficace depuis 7 à 8 ans. Et sur la table, aujourd'hui, nous avons une pâle proposition de la Commission européenne qui vise en fait à réduire la quantité de permis en circulation, donc agir sur les quantités, en se refusant à agir sur d'autres leviers. Et on a une deuxième proposition qui est plutôt la proposition du gouvernement français aujourd'hui, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette idée d'introduire un corridor sur le prix de la tonne carbone, et donc d'essayer de faire évoluer le prix de la tonne carbone entre un prix plancher et un prix maximum, et en tout cas d'essayer de lever ce prix plancher pour arriver à un prix de la tonne carbone de, non pas 5 euros, mais 30 euros, et devenir plus incitatif. Et le problème de la proposition du gouvernement français, c'est qu'elle, elle se limite à vouloir encadrer la fixation du prix, sans agir sur les quantités et sans agir sur l'élément qui est l'élément majeur qui transformerait profondément la façon dont ce marché carbone fonctionne, c'est de mettre aux enchères l'ensemble des permis et de les réduire drastiquement année par année. Et si ces propositions-là ne sont pas reprises, ce marché carbone restera complètement déficient et c'est extrêmement problématique parce que de fait, on donne un pouvoir supplémentaire à des acteurs de marché plutôt que de donner ce pouvoir-là à l'acteur public, à l'acteur régulateur, au législateur, avec la possibilité donc d'instaurer des normes ou des réglementations ou des décisions discrétionnaires pour encadrer les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel. Et donc on voit que là prime une logique, et c'est une logique de marché libéral classique, au détriment d'une régulation étatique, ou en tout cas par un régulateur public qui peut en plus pourrait dans un monde idéal être régulé et être encadré, ce régulateur en tout cas par la participation effective de la société civile.
Alors justement, la société civile, ou que ce soit d'ailleurs même les États ou l'Europe, il y a plein de choses dont on parle, et ça fait partie des points de proposition. Évidemment, on a tous en tête le soutien au déploiement des énergies renouvelables, on va peut-être pas revenir dessus, mais par contre, on peut apprendre dans ce document qu'il y a énormément de nouvelles infrastructures gazières qui se construisent en Europe, il y a énormément de financement, venant d'États ou venant des fonds d'investissement européens ou des banques européennes de reconstruction, de la Banque mondiale, qui interviennent pour financer des projets climaticides et qui ne permettent pas de se désinvestir des énergies fossiles. Tu parles dans le document, par exemple, de la construction d'un gazoduc entre la Belgique et l'Italie pour amener jusqu'en Europe le gaz extrait des pays autoritaires de l'Est. Voilà. Et je voudrais aussi que tu nous parles peut-être plus d'un autre point qui est que dans l'agenda à venir des propositions internationales, il y a des propositions qui sont dites au point 12 climaticides au niveau, par exemple, du plan Action Lima Paris.
Alors, on a, en fait, tous ces éléments proviennent du décalage que j'évoquais un petit peu en introduction de l'émission entre la sphère des discours et des politiques sur le climat, qui est une sphère relativement cantonnée et sectorisée. Donc on en parle une fois par an lors de la COP, de cette conférence des partis qui se réunit chaque année. On en a plus parlé au moment de Paris que lors de la prochaine qui va se tenir au Maroc. Mais donc on a cette sphère-là qui vit sa vie, et on le voit aussi dans les politiques publiques nationales ou européennes. On a un commissaire européen chargé du climat, une ministre de l'environnement qui est chargée des politiques climatiques en France, mais que ceci ne percole pas finalement avec les politiques économiques classiques, voire même avec les politiques énergétiques classiques. Et c'est un petit peu problématique parce que les politiques énergétiques sont complètement connectées à la question du réchauffement climatique. Et ça, on l'a vu par exemple dans l'accord de Paris, le mot d'énergie fossile n'apparaît pas tout au long de cet accord-là. C'est comme si on pouvait régler la question du réchauffement climatique sans à un moment donné se poser la question de la nécessité de toucher à la question des énergies fossiles, des infrastructures qui vont avec, à la question des décisions de politique économique. Et on a là ce décalage-là, il est existant au sein des politiques européennes effectivement ou des politiques françaises, avec cette volonté au nom de principes qui ont été édictés comme étant importants, et notamment en matière énergétique, la question de la sécurité énergétique, et au nom donc du coup de la nécessité de moins dépendre de l'approvisionnement par exemple en gaz venant de la Russie, ben on est en train de construire des infrastructures gazières partout en Europe, que ce soit des gazoducs, que ce soit des usines de liquéfaction, de regazéification du gaz, des dispositifs qui vont en fait permettre de connecter l'ensemble du marché gazier européen. Donc il y a une volonté aussi de construire un marché unique du gaz, et ceci avec des approvisionnements plus diversifiés qu'ils ne sont aujourd'hui, et notamment l'importation massive de gaz venant d'outre-Atlantique. Et on l'a vu cette semaine avec les annonces selon lesquelles EDF, mais aussi Engie, bientôt Total, vont importer du gaz massivement depuis les États-Unis, et ce gaz comprend du gaz de schiste. Et ça nécessite la construction d'infrastructures extrêmement coûteuses, et notamment on a entendu parler en France du port méthanier de Dunkerque, qui a d'ailleurs été l'objet de vives critiques du point de vue de la qualité des travaux qui ont été effectués et qui nécessitent des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros, pour assurer donc cette diversification de l'approvisionnement en gaz, et ce alors que c'est pas forcément nécessaire puisque la consommation de gaz en Europe commence à diminuer et que des véritables politiques de sobriété et d'efficacité énergétique dont on a parlé récemment doivent nécessairement conduire à la diminution de ce gaz qui va être consommé en Europe. Et donc du coup l'Union européenne, elle parle de climat d'un côté, mais de l'autre côté elle met en œuvre des politiques publiques qui sont des politiques en matière énergétique, d'une politique de l'offre qui consiste à dire que l'offre d'énergie doit continuer d'augmenter dans nos pays, et donc ce décalage-là il est persistant et il se retrouve à travers effectivement ce document qui a été rédigé en parallèle de la COP21, qui est finalement une plateforme pour recevoir toutes les bonnes propositions venant de l'ensemble des acteurs non étatiques et donc du coup des multinationales, du secteur de la société civile, des collectivités territoriales. Le gouvernement français, avec l'aide de l'ONU, a créé une plateforme pour regrouper l'ensemble de ces propositions. Ça s'est appelé à un moment donné un agenda des solutions. Ça prend divers noms aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas dicté de critères précis pour accepter ou refuser des propositions qui pourraient être faites par des collectivités territoriales ou par des multinationales ou même par des acteurs de la société civile. Et on se retrouve donc avec des propositions qui sont répertoriées dans ce document, qui sont complètement insupportable, inacceptable, c'est-à-dire qu'au total, à travers une micro-proposition qui devrait être mise en œuvre depuis des années aux quatre coins de la planète, c'est-à-dire interdire ce qu'on appelle le torchage des gaz quand on extrait du pétrole. Quand vous extrayez du pétrole, il y a forcément du gaz qui vient avec, et la majorité des multinationales, excepté dans quelques pays qui ont pris des régulations extrêmement fortes, comme la Norvège depuis plus de 60 ans, eh bien, on préfère brûler le gaz plutôt qu'essayer de le récupérer. Et donc, c'est ces torches de gaz qu'on voit sur les puits de pétrole. Et ceci est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre et extrêmement... c'est du gaspillage. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, on extrait du gaz de schiste au Texas et on brûle le gaz qui est extrait avec le pétrole de schiste dans le Dakota du Nord. Donc on marche sur la tête.
On marche sur la tête, ça nous permet de faire une petite transition pour faire une petite pause musicale. On va écouter l'affaire Louis Striau. Alors cette circonstance après le décès de son chanteur, et c'est surtout de circonstance par rapport à son thème, on va dire, très climato-positif. Chic Planète.
Alors, bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel. Nous sommes toujours dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires.
Et nous reprenons le cours de notre interview avec Maxime d'Attac, Maxime Combes, qui était en train de nous parler des différentes propositions faites à l'issue de la COP21 par l'association Attac. Ratifier, c'est bien, mais changer de politique, c'est mieux. Et nous pouvons aborder peut-être peut-être un mot tout juste sur des choses dont on a beaucoup parlé dans l'émission, c'est ces fameux grands projets inutiles. Hein, arrêter de faire tous ces grands projets qui ne veulent plus rien dire, comme ces TGV qui vont encore plus vite pour avoir moins de monde dedans, ces avions qui consomment énormément, les projets de Notre-Dame-des-Landes dont on a déjà beaucoup parlé ici, et puis aussi du gaz de schiste pour lesquels on voit même parfois des investissements européens se dessiner derrière. Alors, par rapport à ces sujets, on peut peut-être leur donner un angle un peu différent, c'est de regarder par rapport à d'autres points que sont ceux proposés à l'intérieur du document, d'entrer à l'intérieur des textes qui entourent l'Europe, et entre autres ce fameux traité, le TAFTA, qui a été analysé dernièrement en début mai par Greenpeace, et parce qu'il en révélait des documents le concernant, et tu les as toi analysés, et tu parles de 5 enseignements révélés par Greenpeace au sein du TAFTA.
C'est sur la base effectivement des documents fuités par Greenpeace, on peut en tirer quelques enseignements, et ces enseignements, c'est principalement de considérer que la Commission européenne, quand, en général, quand on émettait des critiques sur cet accord TAFTA, elle ne cessait de dire que nos critiques étaient des mythes, ne reposaient sur rien, n'étaient pas fondées. Et donc du coup, avec les documents qui ont été fuités, aujourd'hui elle ne peut plus dire ça, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des éléments tangibles dans le texte qui nous permettent de justifier pourquoi, par exemple, le principe de précaution est clairement remis en cause ou mis en danger à travers ces négociations. Et donc du coup, les cinq enseignements que je tirais de ces fuites révélées par Greenpeace ne portent pas finalement sur les aspects techniques du texte, mais d'une manière générale sur la discussion qui peut se tourner autour du TAFTA. Un autre des enseignements qu'on peut avoir, c'est que la Commission européenne a tenté de se justifier ces dernières années en disant « Mais si, on met plein de documents en ligne sur notre site internet pour que la société civile puisse suivre les négociations. » Sauf que ces documents, ce sont des documents de relations publiques qui sont rédigés par la Commission européenne et qui ne sont absolument pas des documents tels qu'ils sont rédigés. Et donc, du coup, ils sont très largement édulcorés par rapport à la négociation. Et donc, du coup, le fait d'avoir aujourd'hui des documents qui ont été fuités et qui sont sur la base des négociations oblige la Commission à revoir un petit peu son discours là-dessus. En tout cas, son discours ne sera plus tenable. Et le dernier, peut-être, enseignement qu'on peut mentionner ici, c'est que dans ces négociations, la Commission européenne ne cesse finalement d'énoncer qu'elle va sur tel et tel point se renseigner, s'informer, discuter avec les acteurs du monde économique, avec les multinationales, avec les représentants de tel ou tel secteur économique, alors que sur ces mêmes points, les ONG, la société civile, les syndicats auraient beaucoup à dire et qu'ils ne sont jamais consultés et qu'ils sont finalement tenus éloignés de la façon dont se passent les négociations. Et pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, moi, la partie des documents fuités par Greenpeace que j'ai le plus regardé, c'est finalement de regarder si, quelque part, au lendemain de la COP21, nous avions dans ce document des éléments qui avaient trait à la question de l'urgence climatique, à la question de la COP21, à la question de cet accord de Paris qui va être ratifié et qui est présenté par tout le monde comme étant l'accord le plus important de ce début du 21e siècle, et qu'en fait une recherche dans les documents fuités par Greenpeace, la question de l'urgence climatique n'apparaît pas, la question de l'accord de Paris n'est jamais mentionnée. Donc du coup on négocie cet accord commercial comme si ça pouvait être négocié de façon totalement déconnectée de l'impératif climatique. Et donc on retrouve cette dissociation dont je parlais plus haut, avec cette volonté du business as usual dès qu'on parle de commerce, d'investissement, d'économie, et finalement de ne jamais connecter ça à la question de l'urgence climatique dont la COP21 a fait tout un beau discours, mais peut-être, et un accord de Paris relativement faible, mais qui en tout cas, on a ce décalage-là auquel il faut s'attaquer aujourd'hui.
Alors des textes qui entourent au-delà de la COP21, donc on va parler du TAFTA, traité transatlantique, il y a aussi l'accord entre l'Union européenne et le Canada qui contient des points assez surprenants, carrément contraires à l'urgence climatique. Mais il y a quelque chose que je ne connaissais pas du tout que tu mets en avant dans ton blog, donc tu as un blog sur Mediapart, Maxime Combe, blog Mediapart qui essaie de faire l'actualité et qui le fait très bien de tous ces thèmes internationaux sur le climat. Et tu as un titre qui interroge, c'est « La Commission européenne a déjà pulvérisé un engagement clé de la COP21 et ça date de tout début mars ».
Oui, on a au lendemain de cette COP21, on a un vrai souci, c'est que dans l'accord de Paris, il est mentionné à l'article 2 qu'il faut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire idéalement à 1,5 degré, et que face à cela, les États, dans le processus de préparation de la COP21, ont mis des engagements, des propositions visant à réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre, qui, quand on en fait le calcul, alors c'est un calcul un peu compliqué et qui peut être très largement discuté, mais ne rentrons pas dans ces détails-là, conduisent à voir que, en fait, les États s'engagent sur un réchauffement climatique qui est largement supérieur à 3 degrés. Donc on a un décalage extrêmement fort. Ils disent on va tout faire pour rester en deçà des 2 degrés, mais ce qu'ils mettent sur la table conduit à plus de 3 degrés. Et il aurait été souhaitable que la COP21 nous permette de faire converger ces deux objectifs et ramener donc les États à ce qu'ils s'engagent bien plus que ce qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas le cas. Et donc au lendemain de la COP21, on a ce hiatus entre les 2 degrés et les 3 degrés, entre ce qui serait souhaitable et la réalité. Et une exigence que l'ensemble de la société civile peut avoir, c'est au lendemain de la COP21, et ça a même été prononcé par François Hollande en clôture de la COP21, qui a dit « je m'engage au nom de la France à très rapidement revoir l'ambition de mon pays pour que nous revenions sur une trajectoire de 2 degrés. » Et donc du coup, au lendemain de cette COP21, ce que nous attendons de la Commission européenne, parce que la politique climatique au niveau de l'Union européenne est de compétence européenne, ça on peut après le critiquer ou pas, mais c'est la réalité des traités aujourd'hui européens, la Commission européenne est venue avec à présenter en fait un document qui est en fait son analyse de l'accord de Paris et qui dit que l'engagement de l'Union européenne aujourd'hui en matière de climat est suffisant au regard des exigences qui ont été portées par l'accord de Paris. Et ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est pas acceptable. Et donc, du coup, la Commission européenne dit les engagements que nous avons pris pour 2030, ils sont suffisants. Et face à cela, on aurait dû avoir une montée au créneau extrêmement forte du gouvernement français, une montée au créneau extrêmement forte de l'ensemble des gouvernements européens qui disent vouloir lutter contre le dérèglement climatique. Et finalement, hormis quelques-uns, notamment de pays nordiques, on a eu très peu de critiques sur cette proposition de la Commission européenne. Et de fait, si la Commission européenne ne revoit pas son ambition à la hausse de manière importante et rapide, cet objectif des 2 degrés, finalement, il va être hypothéqué par la seule non-décision de la Commission européenne et de l'Union européenne. Et c'est en ce sens que j'ai effectivement titré sur le fait que la Commission européenne prenait une décision là qui faisait voler en éclats l'objectif qui a été assigné par la COP21, c'est-à-dire de tout faire pour rester en deçà des 2 degrés.
Alors tout cet énervement qu'on sent, tu es aussi quelqu'un qui réfléchit, mais tu es aussi quelqu'un qui agit, et tu n'es pas tout seul. Il y a donc un mouvement activiste, comme on dit, climato-sceptique ou climato-actif. Et vous avez fait une très jolie action début avril à Pau. Tu peux nous raconter ce que c'est, puis tu peux nous raconter ce qui se passe en ce moment à l'issue des deux semaines d'action de ce début mai.
Ces actions proviennent de ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire ce décalage entre ce qui serait souhaitable, le 2 degrés ou le 1,5 degré, et ce que nous avons aujourd'hui sur la table. Et donc face à cela, nous avons pris un engagement à Paris, lors de la COP21, le dernier jour, le 12 décembre, en présentant ce que sont les lignes rouges de la société civile face aux politiques menées par les gouvernements et au niveau international. Et nous avons pris l'engagement qu'en fait, chaque fois que le secteur de l'industrie fossile s'organiserait pour aller plus loin dans l'extraction des énergies fossiles, chaque fois des États chercheraient à construire de nouvelles infrastructures liées au secteur des énergies fossiles, du transport, de l'aéronautique, tout ça, nous serions là pour nous opposer à ces projets et pour rappeler les exigences qui sont celles de l'impératif climatique. Et c'est un peu ce que nous avons fait à Pau, et c'est ce qui est en train de se passer toute cette semaine aux quatre coins de la planète, et notamment avec une très très grosse action en train de se dérouler au jour même et ce week-end dans l'est de l'Allemagne. Et à Pau, en fait, on a été choqués par l'annonce d'une conférence internationale menée par l'ensemble du secteur des entreprises gazières et pétrolières, dont Total, qui accueillait donc ce sommet international. Et ce sommet international n'avait qu'un seul objectif, c'était de discuter comment faire pour maintenir l'exploration et l'exploitation de gisements pétroliers offshore et gaziers dans une période où le prix du pétrole et le prix du gaz sont plutôt en chute libre, et que donc du coup ça pose des contraintes extrêmement fortes sur la possibilité de maintenir ce niveau d'exploration et d'exploitation pétrolière. Et quand nous prenions le document présentant ce sommet, il n'y était mention d'aucune référence à la COP21, à l'urgence climatique, à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, encore moins à la nécessité éventuelle de ne pas exploiter de nouveaux gisements pétrolier, gazier, offshore. Et donc c'est la raison pour laquelle on a essayé, et on a très largement, on a essayé de bloquer ce sommet, et on l'a très largement perturbé en organisant des actions de désobéissance civile déterminées à plusieurs centaines de personnes pour empêcher les représentants de ces entreprises d'entrer dans le lieu où nous sommes nous-mêmes rentrés dans le lieu pour empêcher que le début de la conférence débute. Nous les avons réveillés la nuit à l'hôtel, nous les avons empêchés de sortir de l'hôtel certains matins, et nous avons mené diverses actions de ce type-là, à la fois pour tenter de bloquer ce sommet et pour interpeller l'opinion publique. C'est toujours ça, les actions de désobéissance civile. Elles ont un objectif qui est extrêmement précis, en décidant de franchir une limite qui n'est généralement pas permise, soit par les forces de police, soit par la loi. Et là, c'était le fait de bloquer et d'empêcher ce sommet de se tenir. Et également d'interpeller l'opinion publique, parce que c'est ça, véritablement, ce qu'on souhaitait faire. C'était de dire à l'opinion publique, mais comprenez que ce qui est en train de se passer n'est absolument pas acceptable. Ils font comme si la COP21 ne s'était pas passée. Ils font comme si l'urgence climatique pouvait être mise entre parenthèses.
Et alors, si on veut rejoindre ce mouvement, est-ce que tu peux nous dire comment le rejoindre? Quel site internet à consulter pour aller faire ce genre d'action?
Ben aujourd'hui, donc du coup, en France, vous avez plusieurs organisations qui sont parties prenantes de ces diverses actions, qui peuvent être donc un groupe qui s'appelle ANV COP21, mais vous avez aussi ces informations sur le site d'Attaque France, sur le site des Amis de la Terre, sur le site de 350.org qui maintenant est présent en France. C'est en gros les organisations qui étaient parties prenantes de cette action à Pau. Et si vous voulez suivre quasiment en direct ce qui est en train de se passer dans l'est de l'Allemagne, ils sont en train d'essayer de bloquer une immense mine de charbon, de lignite en fait, dans l'est de l'Allemagne, avec des machines sur roues qui sont plus grandes que la Tour Eiffel, en tout cas plus imposantes que la Tour Eiffel. Donc c'est des choses assez spectaculaires, et ils sont intervenus à plus de 3000 aujourd'hui pour bloquer une mine de ce type-là, et ils comptent la bloquer pendant tout le week-end. Vous allez sur le site de 350.org et la partie française, et vous pouvez suivre quasiment en direct ce qu'il s'y passe. Et l'idée finalement, c'est donc du coup d'essayer de se mettre en travers des projets climaticides qui sont menés par le secteur industriel ou les gouvernements, et c'est similaire à la mobilisation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou contre les gaz et pétrole de schiste en France. C'est simplement de dire que non, ce n'est pas possible de continuer comme si de rien n'était.
Et donc, si on veut avoir toute l'actualité, tu viens de citer les sites activistes, bon, je rappelle aussi ton blog sur Mediapart qui est très bien fait, et on te remercie pour cette intervention. Et nous finissons le thème en parlant, bah, on parlait de niquer les grandes entreprises, mais on va déjà aller niquer la planète avec HK et les saltimbanques.
Parce que c'est ma raison d'être.
Bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel, nous sommes encore là sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires.
Et nous enchaînons sur nos chroniques avec Gaël.
Oui, vous vous souvenez, en 2012, on a élu un président ennemi de la finance. Si, si. Non, sans déconner, il a fait des choses. Par exemple, depuis 2013, les banques doivent indiquer pays par pays leurs implantations, la nature de leurs activités, leurs chiffres d'affaires, leurs effectifs, leurs bénéfices avant impôts et les impôts payés. Donc tout ça pays par pays, y compris les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, on connaît ces informations pour les années 2013 et 2014, et elles ont été analysées par la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires, dont fait partie notamment Attaque, pour les 5 plus grandes banques françaises. Alors, premier enseignement, c'est que la majeure partie des bénéfices de nos grandes banques est réalisée à l'étranger, à 80% pour BNP Paribas, 94% pour le Crédit Agricole et 92% pour la Société Générale. Et bizarrement, les paradis fiscaux représentent plus du tiers de ces bénéfices réalisés à l'étranger, alors qu'ils ne comportent que 16% des effectifs étrangers de ces banques. Ça signifie en gros que les salariés de ces banques dans les paradis fiscaux sont 2,5 fois plus productifs. C'est le climat des Bahamas, ça dope la productivité. Alors tout ça ressemble à s'y méprendre à un système d'évasion fiscale qui aurait été organisé pour les clients fortunés de ces grandes banques. Je rappelle que l'évasion fiscale, ça représente chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros de manque à gagner dans le budget de la France. Et l'affaire des Panama Papers a levé les derniers doutes qu'on pouvait avoir sur l'honnêteté de nos banques, notamment la Société Générale, qui a ouvert 979 sociétés offshore par l'intermédiaire du cabinet d'avocats panaménien Mossack Fonseca. Donc c'est pour ça que les militants d'Attaque ont bloqué une agence de la Société Générale le 7 avril à Paris, pas n'importe où, près du métro Bourse, et pas n'importe laquelle, une agence de banque privée. Alors une agence de banque privée, c'est pas l'agence Société Générale où vous allez faire la queue pendant une heure pour retirer 100 euros de votre livret A. C'est une banque où les gens riches rencontrent leurs conseillers dans un cadre feutré pour étudier ensemble comment placer au mieux leur fortune sans payer trop d'impôts. Parce que la solidarité, c'est bien, mais faut pas que toujours que ce soit aux riches de payer. Alors, Attac a appelé à généraliser ce genre d'action, et depuis, il y a déjà eu 15 occupations d'agences Société Générale un peu partout en France. Sachant que la Société Générale a 103 agences de banque privée en France, vous en avez sûrement une près de chez vous pour continuer, sauf si vous habitez chez les pauvres. L'objectif d'Attac, c'est simplement de faire appliquer une des mesures du programme de Hollande 2012, interdire aux banques d'exercer dans les paradis fiscaux, ce qui fait un peu plus de 600 agences à fermer. Attac demande aussi de renforcer les services fiscaux, de définir, de pénaliser des crimes d'évasion fiscale, d'imposer la transparence sur les activités réelles des banques et d'imposer la transparence sur l'identité des détenteurs de comptes. En attendant d'avoir un gouvernement de gauche qui fasse ça pour de vrai, les dirigeants de la Société Générale courent toujours. Et pendant ce temps, Antoine Deltour, le lanceur d'alerte qui a révélé les LuxLeaks, est jugé comme un criminel. Alors comme c'est énorme, le PS se sent obligé de dire qu'il va protéger les lanceurs d'alerte avec le projet de loi Sapin 2, qui est la loi sur la transparence, la prévention de la corruption et la modernisation de la vie publique. En réalité, au niveau européen, la directive sur le secret des affaires est passée, avec le soutien des sociaux-démocrates, dont les élus PS français au Parlement européen, et c'est clairement une menace pour les lanceurs d'alerte. Puisque alerter sur les magouilles d'une banque, ça peut être considéré comme une violation du secret des affaires. Alors pour plus d'informations sur l'évasion fiscale et pour agir, vous trouverez votre bonheur sur le site web d'Attac. Et je vous conseille aussi le site web lesrequins.org où vous pourrez commander des kits de lutte contre les requins. Actuellement, 3 requins sont ciblés, BNP, Total et Vinci.
Si j'ai bien compris... Être lanceur d'alerte, ça sent le sapin, tout de suite. On enchaîne sur une autre chronique d'actualité sur la loi travail avec Alex.
Ouais, voilà. Alors, Moi, je représente les pages chaumont du PIAF, la rubrique où on traite des vraies valeurs, celles qui sont cotées à la bourse. Voilà. Et donc, on a décidé, là, dans la rubrique, de parler de la loi El Khomri, puisque c'est quand même une loi qui intéresse un petit peu tout le monde. Mais, c'est pas évident d'ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit. Donc, on va prendre un point de vue un petit peu fort. Le point de vue des économistes, le point de vue des hommes d'affaires. Pour reprendre Marx, le point de vue qui permet de noyer le sentimentalisme petit bourgeois dans les eaux glacées du calcul égoïste.
Oh, c'est beau.
Voilà. Et donc, allons-y dans les eaux glacées du calcul égoïste. Qu'est-ce que c'est la théorie sous-jacente à la loi El Khomri ? Alors, un petit peu d'économie. Pour les économistes classiques, Maxime en avait parlé tout à l'heure, le chômage est lié au fait que le coût du travail est trop élevé. En fait, il faut baisser le coût du travail. Et on peut le faire baisser en baissant les salaires. C'est pas forcément évident. On a baissé les cotisations, mais alors baisser le SMIC, c'est un peu compliqué quand même. Et puis, il y a une autre manière de le faire qui est plus subtile. C'est la flexibilité de l'emploi. On va optimiser l'utilisation de la masse salariale des entreprises de manière à augmenter les marges. Et avec un peu de chance, comme les marges vont augmenter, les entreprises ont davantage au moché parce qu'elles vont pouvoir faire plus d'investissements. Et c'est exactement le but de la loi El Khomri. Donc, premier point, on va faciliter les licenciements. On va rendre les licenciements économiques plus faciles. On va permettre à beaucoup plus de licenciements qui a passé comme des licenciements abusifs, comme des licenciements économiques. Et puis, quand même, il y a toujours des licenciements abusifs. Donc, il faut les sécuriser. Ça, c'est vachement important. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise, elle sache exactement combien ça va lui coûter de faire un licenciement abusif. On va faire un barème très précis, comme ça on va pouvoir planifier à l'avance la part de licenciement économique, la part de licenciement abusif et combien ça va coûter exactement. Voilà. Il faut aussi se débarrasser, alors on peut pas se débarrasser des syndicats comme ça, mais il faut aussi se débarrasser un petit peu de la logique de négociation avec les syndicats, parce que c'est un peu des emmerdeurs quand même. Alors, très bonne idée, le référendum d'entreprise. Le référendum d'entreprise, c'est l'idée que justement, même si on a la majorité des syndicats qui sont contre un plan de licenciement, on va pouvoir poser la question à l'ensemble des salariés du moment qu'il y ait 30% des syndicats ou des représentants syndicaux qui sont d'accord avec l'idée d'un référendum d'entreprise. Et évidemment, autre point qui est très important dans la loi, c'est le changement dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que l'accord qui va être négocié au niveau de l'entreprise va être plus important que l'accord de branche. Et enfin, dernier point, c'est flexibiliser le temps de travail. Donc, et là, ils ont inventé quelque chose d'absolument génial dans la loi El Khomri. On avait déjà les accords pour le maintien de l'emploi qui permettaient de négocier des conditions dérogatoires au droit du travail dans la mesure où une entreprise était en difficulté. Maintenant, on a les accords pour le développement de l'emploi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des conditions de travail dérogatoires au code du travail dans une entreprise dans le but, pendant 2 ans, dans le but d'augmenter ses parts de marché, d'augmenter sa production. Voilà. Alors, avec toutes ces choses-là, eh ben, il y a quand même 2 problèmes. Premier problème, avec Hollande, on est retombé dans le sentimentalisme petit bourgeois. Il s'est quand même senti obligé de mettre dans la loi des trucs un peu progressistes, comme le compte personnel d'activité, comme la garantie jeune. Voilà. Deuxième problème, et pas des moindres, c'est qu'en fait, le point de départ de tout ça, la loi El Khomri, c'est ce qu'on appelle le théorème de Schmitt. Truc qui a été une phrase de Helmut Schmidt en 1974. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Le problème, c'est que ça marche pas. Les profits d'aujourd'hui, est-ce que ce sont vraiment les investissements de demain? C'est pas sûr. On peut garder l'argent, on peut ne pas investir avec cet argent, ou on peut décider d'investir à l'étranger, délocaliser. Et est-ce que les investissements vont donner des embauches? Pas forcément. On peut investir pour acheter des machines qui permettent de diminuer le nombre de personnes qu'on emploie. Et donc la vraie question que pose la loi El Khomri, la vraie question du point de vue du calcul des eaux glacées, du calcul égoïste, est-ce que c'est vraiment l'utilité de cette loi, c'est vraiment de diminuer le chômage ou simplement d'augmenter les marges des entreprises, donc les profits du patron et du patronat.
Il nous fait
voilà.
Froid dans le dos. Les eaux se glacent.
Alors, ces eaux se glacent, mais je crois que tout le monde est dans la rue pour combattre cette loi. Enfin, quand on t'entend décrire ça, mais on n'a pas d'hésitation, quoi. Comment Juppé va pouvoir faire pour être plus à droite qu'El Khomri?
C'est une bonne question. Diminuer le SMIC.
Ah.
Voilà, ça c'est une vraie perspective.
Il l'a dit. Alors on termine par l'agenda. Hein. Alors numéro 1, les nuits debout bien sûr, Gaël.
Et oui, c'est ça, tous les jours. Depuis le 31 mars, le mouvement Nuit debout transforme l'espace public en un lieu d'échange où chacun a le droit à la parole. Après plus d'un mois d'occupation, Nuit debout a essaimé partout en France et même à l'étranger. Alors, prochain rendez-vous dimanche 15 mai. Pour suivre ça sur Twitter, c'est le hashtag Global Debout.
Oui. À 14h30, il y a une conférence débat sur les lanceurs d'alerte, justement. Donc, c'est Place de la République. Et à 15h, l'orchestre debout. Par ailleurs, main mise sur les villes, ciné-débat d'attaque Paris 12e. Un film de Claire Laboré de Marc Bottineau-Évreux. À 19h30, la projection et débat avec Jean-Pierre Garnier, sociologue.
Alors, je vais commencer par une citation de Manuel Valls. « J'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qu'il s'est passé. » Et pour répondre à ça, le prochain jeudi d'Acrimède qui aura lieu le 19 mai, avec comme invité Bernard Lahire, auteur de « Pour la sociologie », qui va justement essayer d'expliquer comment on peut en finir avec une prétendue culture de l'excuse et évoquer le traitement médiatique des sciences sociales. Et ça sera le jeudi 19 mai à 19h à la Bourse du Travail à Paris, dans le 10e arrondissement. Plus d'informations sur acrimed.org.
Un petit peu de recul sur tout ce mouvement. La soirée révolte d'attaque, désobéissance, résistance, dissidence, est-ce que c'est une insurrection démocratique? Ça sera à l'espace Reuilly, jeudi 19 mai à 18h50. Un petit avant-goût. Et si le calendrier des Nuits debout était celui de l'an 01 du réveil démocratique? Pour cela, plus d'infos sur le site d'attaque.
Le vendredi 20 mai, le collectif unitaire de soutien au peuple grec organise une conférence débat avec Georges Mitralias, journaliste, membre de la commission pour la vérité de la dette grecque. C'est une mise en perspective de la situation politique en Europe. Donc c'est à 20h le 20 mai au centre culturel du cinéma La Clé, 3 rue d'Aubenton, Paris 5e.
Journée Rock Against, samedi 21 mai, à 16h30, Cirque électrique, place du Maquis du Vercors, Paris 20e, discussion, rencontre, scène alternative, puis concert.
Et alors, le vendredi 27 mai, à la salle René Cassin, dans le rue François Mitterrand, à Lardy, RERB, tout ça, le comité Attaque Sud-Essonne vous invite à la conférence « Les accords de libre-échange, le business prend le pouvoir » avec Frédéric Vial, le meilleur ami de Gaël, membre de la commission Europe d'Attaque.
Et un de nos invités réguliers, on va l'inviter bientôt, tiens. Alors, ça termine notre émission. On remercie tous les participants, Boris à l'agenda, Claude à la technique, Alex et Gaël aux chroniques, notre invité Maxime Combe, et on remercie surtout Patrick, dont la chronique vient d'être effacée par le méchant aiguille, la méchante aiguille qui courait après nous.
Sniff.
Et nous terminons l'émission en écoutant Richard Galliano, Bibo al-Thur.